voix nue. Cette semaine, France Culture rend hommage à la chanteuse Juliette Gréco, récemment disparue. Nous l'écoutons au micro d'Hélène Azéra en 2001. Ce soir, une vie éblouie.
J'entre, je vais directement dans la loge. Je défais mes affaires. J'installe mes objets. Mais une petite serviette brodée. Je range les choses de maquillage dans un ordre tout à fait précis. Ensuite, j'écoute ce que font les garçons sur la scène. Quand ils sont prêts, je descends. Et je vais voir comment est la scène, comment est la salle. Et puis, on répète. Et puis je remonte dans ma loge et puis j'ouvre le classeur dans lequel il y a mes textes et puis je relis les textes. Et puis je commence tout doucement. Je mets un ruban dans mes cheveux, ou un élastique, ça dépend. Je commence à me démaquiller, puis à me remaquiller. Et je ne pense qu'à ce que je vais faire. Je me regarde dans une toute petite glace ronde, toute petite, grossissante parce que j'y vois rien. Et puis, je mets des faux cils parce que ça me rassure. Et puis, j'essaie de me coiffer, toujours une bagarre. Et puis, je mets ma robe et je me recoiffe parce que, bien entendu, j'ai tout défait en enfilant ma robe par la tête. Et puis, à la dernière minute, je mets mes chaussures. Quand j'ai mis mes chaussures, c'est le drame, quoi. Donc, avant les chaussures, ça va mal. Et avec les chaussures, c'est l'horreur. Voilà. Je ne pense qu'à cette rencontre, je ne pense qu'à ça, je pense qu'à ça. Je descends. On vient me chercher, en général. Si on ne vient pas me chercher, je m'énerve, parce que je suis toujours à l'heure. Donc, je descends. Mais je descends comme on va à l'échafaud, vraiment. C'est le peloton d'exécution, quoi. Et puis, je vais dans la coulisse. Et j'ai l'impression de rétrécir, d'être tellement petite qu'on ne va pas me voir. Et en effet, quand je rentre dans mes vêtements après, je perds 2 cm de tour de taille. Et puis là, je prie. Aller chercher pourquoi, moi qui suis mécréante. Mais cette vieille éducation religieuse me remonte comme le radis ou le concombre, et je m'accroche à ce que je peux. En général, c'est cette pauvre Vierge Marie que je m'adresse en me disant, comme c'est une femme, elle va comprendre. Alors je lui parle, et puis je me courbe, comme ça, je deviens toute petite, et puis j'entends l'indicatif, et là je mets toute droite et j'entre sous ce qu'ils appellent normalement le feu des projecteurs. Et c'est bien vrai. Mais c'est un feu qui tue, celui-là. Et j'essaie de commencer. Voilà. Et puis petit à petit, je sens comment ils sont. Et petit à petit, ils font plus qu'un. Et petit à petit, je ne vois plus la lumière. Donc là, tout va bien. On peut commencer à faire l'amour.
Alain Leprest a dit « Une chanson, c'est 50% les mains. »
Ah ben, dans ce cas-là, ça marche, hein.
Vous, c'est 55%.
Ça dépend. À l'étranger, c'est 60. Facile, 70 même. Parce que après ça, vraiment, il faut que je me couse les mains en rentrant. Parce que il faudrait que je me couse les mains dans les poches. Parce que quand je reviens de l'étranger, j'ai tellement envie qu'on comprenne ce que je suis en train de dire que je dessine. Je dessine absolument tout. Je dessine tout. Et c'est bien parce que les gens viennent me dire après, je ne parle pas français. Le tout en anglais, ce qui m'exaspère. Mais enfin bon, tant pis pour nous. Donc, ils me disent, je ne comprends pas le français, mais je comprends très très bien ce que vous voulez dire et je comprends, avec vos mains, je suis obligé de comprendre. Donc, c'est bien, donc il faut le faire. Mais quand je rentre, il vaut mieux quand même que je mette mes mains dans mes poches un peu. Que je fasse un peu moins, c'est ma force.
Je vous ai vu une fois en scène, c'était à l'Olympia. Vous commencez la chanson de Margaret et vous vous trompez dans le texte. Et vous avez fait arrêter l'orchestre. Vous êtes mis à taper
du pied.
À taper du pied.
Ah ben évidemment.
Il y a quelqu'un dans le public qui a crié « Gréco, on t'aime ». Et vous avez répondu « Il n'y a pas de quoi ».
Oui, que c'est pas une raison.
C'est pas une raison.
Pour faire des bêtises, oui.
Vous aviez l'air mais furieux.
Ah, mais dans cette boule-là, je me hais. Je me hais, j'ai honte. Je suis humilié complètement. Mais c'est vrai que d'entendre on t'aime, ça fait du bien, mais en même temps, c'est encore pire, quoi. Parce qu'on se dit, j'ai pas le droit de faire de bêtises, j'ai pas le droit de me tromper. Mais je ne suis pas une mécanique et. Si je ne suis plus ce que je suis, vraiment, je rentre chez moi.
Qu'est-ce que c'est qu'un costume de scène pour une chanteuse ?
Ah, c'est un... c'est ce qui s'appelle la pudeur. C'est ce qui aide à se cacher et à suggérer. Une robe de scène, c'est un tableau noir ou un arbre nu. Un arbre nu, on peut en faire un arbre de Noël, mais ce n'est pas à moi de le faire. C'est à moi de suggérer que peut-être il y a des petites bougies qui brillent et des choses qui scintillent. Mais je ne peux pas... C'est un côté facho terrible de dire aux gens, voyez, j'ai des bijoux, je suis décolleté, j'ai des seins, mais c'est abominable.
Qu'est-ce que vous demandez à un costume ?
De me protéger. De me protéger. Je peux faire ce que je veux à l'intérieur et je peux imaginer que personne ne le voit. Mais je pense que les gens l'inventent. C'est à chacun d'inventer. C'est à chacun d'écrire sur ce tableau noir ce qu'il a envie d'écrire, de la couleur qu'il le veut.
Vous travaillez beaucoup, les lumières ?
Moi non. Je n'ai jamais vu mes lumières. Jamais. Je ne veux pas.
Vous vous livrez ?
Oui, oui, à ceux qui savent le faire. Moi, j'aime bien qu'on me caresse comme ça. Ça caresse la lumière. Quelquefois, je sens comme une caresse. J'aime ça, j'adore ça. J'ai ma propre petite idée sur la lumière que je pense. Je pense ma lumière à moi. Mais elle ne suffit pas du tout. Donc il faut bien que j'aie un peintre.
Quel est votre planning en ce moment ?
Là, je fais 7 galas en 10 jours. Jusqu'au 2 décembre, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Je reviens de Venise, chargée d'un lion d'or. Et je suis revenue et je suis repartie 2 jours après pour Salerne. Je suis restée à Naples pendant 2 jours, ce qui m'a absolument enchantée, parce que j'adore Naples et que j'adore les Napolitains. Et puis là, je repars pour Nantes, à côté de Nantes. Et puis ensuite, je vais à Meaux, je vais à Nuremberg, enfin voilà quoi.
Vous n'arrêtez pas.
Oui, oui, pour une bohémienne, c'est parfait.
Est-ce que vous ne trouvez pas ça un petit peu étrange, justement, cette reconnaissance de l'étranger ? Et finalement, on peut dire le fait que vous n'êtes pas beaucoup diffusé sur les radios françaises, on ne vous voit pas énormément chanter à la télévision et des choses comme ça.
Mais non, non. Mais dans quelle émission est-ce que je peux aller ? C'est un peu difficile, un petit peu difficile. De toute façon, ce sont presque toujours les mêmes chanteurs que l'on entend et que l'on voit à la télévision. Il n'y a pas d'émissions dans lesquelles j'ai vraiment, vraiment ma place. Ce qui fait que quand j'ai chanté à l'Odéon, il y a un an et demi, j'ai fait les émissions d'information.
Ça vous rend un peu colère ?
Non. Non.
Je parle au-delà de vous pour la chanson.
Pour la chanson, ça m'ennuie beaucoup. Mais bon, il n'y a pas que des mauvais hein, qui passent, ce n'est pas le problème. Mais il n'y a pas une émission consacrée à une certaine forme de chanson. Il n'y a pas.
On n'a pas parlé de Fanon.
Fanon, c'est une merveille, que... Fanon.
Pardon ?
Fanon, c'est une merveille.
J'avais remarqué, quand vous avez fait votre... c'était la première ou la, le deuxième Olympia après 93, Fanon allait très mal.
Très.
Ça se savait dans les milieux de la chanson. Oui. Et vous aviez rajouté des chansons de lui à votre programme. Oui. Et bon, moi, je trouve ça très beau parce que c'est toujours facile de rendre hommage aux gens après qu'ils soient partis. Et c'est
quand ils sont encore vivants qu'il faut les aimer. Oui. Non. C'est encore une des erreurs de cette société.
C'est un peu un maudit de la chanson, Fanon.
Oui, moi, il m'a écrit des choses absolument... L'embellie est une chose magnifique, quoi.
Encore l'amour physique, alors là, sublimé.
Eh oui. Mais il était comme ça. Il était d'une générosité, d'une folie admirable.
Difficile à vivre, j'imagine.
Ah non, mais moi, je l'ai battu un jour. Mais vraiment, j'en avais marre qu'ils boivent comme ça. C'est épouvantable. C'est épouvantable de voir des gens aussi doués, aussi pleins de choses. Vraiment, c'est une mine de poésie et de beauté. Et tout ça, baignant dans l'alcool, c'est extrêmement déplaisant. Extrêmement déplaisant. Donc, je les cognais. Voilà. J'étais vraiment fâchée, vraiment. J'ai mis deux yeux au beurre noir. Le lendemain, j'avais honte. Mais pas tant que ça. Il s'est tué, comme s'est tué Serge Gainsbourg. Les gens n'aiment pas les poètes. Les gens n'ont pas de respect pour les poètes. Parce que les poètes sont parfois impossibles à vivre, sans doute. Parfois outranciers. Parfois limite grossiers. C'est très curieux comme les esprits les plus raffinés peuvent être aussi les plus vulgaires. Enfin, la vulgarité, c'est bien, mais peuvent être aussi orduriers. C'était le cas d'un être comme Dimet, c'était le cas d'un être comme Fanon. C'est très étrange. Or, les gens ne retiennent que ce qu'ils voient. Ils ne retiennent pas ce qu'ils entendent, ou ils n'entendent pas ce qu'ils devraient entendre. Et c'était très beau. C'est très beau ce qu'il écrivait Dimet. Ah mais il écrivait comme le sang coule, avec une facilité désarmante. C'est un peu la même race que Fanon. Moi, j'ai retrouvé Dimet à la maison, qui m'attendait, il arrivait, on faisait monter dans le salon, il demandait à boire, on apportait du whisky, hein, il buvait la bouteille et il s'endormait sous le piano. Ah, la conversation est difficile dans ces cas-là. On laisse les gens dormir tranquillement, on ne les réveille pas. Et quand ils s'éveillaient, c'était terrible, terrible. Mais bon, il faut savoir qu'on ne trempe pas sa plume dans du sirop d'orgeat. Il faut le savoir. Il faut savoir que ces gens sont des êtres de souffrance. Il faut savoir que ce sont des êtres qui ont les douleurs de la création, de la mise au monde de quelque chose. Il faut savoir que ce sont des gens qui ont l'impression qu'on ne les entend pas, parce que peu de gens en font cas, parce qu'ils défendent mal leur œuvre, et que les interprètes, en général, n'aiment pas tellement ce genre de texte, parce que c'est trop fort, parce que ça se coûte trop. Moi, je suis la servante de mes seigneurs. Et je choisis mes seigneurs avec beaucoup de prudence. Je suis là pour ça. C'est mon métier, c'est mon bonheur. C'est ma fierté. C'est ma fierté de faire descendre la poésie dans la rue. Le jour où j'ai entendu, il y a bien des années de ça, où j'étais relativement maudite, même maudite tout court, pas relativement, où j'ai entendu un mec qui était sur une échelle et qui chantait « Si tu t'imagines », je me suis mise à pleurer. C'est ça qui est important.
On va passer à une autre discipline, l'écriture, puisque vous avez écrit un livre largement autobiographique qui a été un grand succès et qui a été salué pour ses qualités d'écriture.
J'en suis heureuse, sinon que quelques bonnes âmes ont dit que je me prenais pour De Gaulle, parce que je...
Il y avait Jules César avant. Il y avait Jules César.
La troisième personne. Donc, ça a été très déplaisant. Mais il y a forcément, comme vous le savez, à l'intérieur d'une femme, il y a toutes les femmes. Donc, moi, je n'ai parlé que de deux. Mais c'est comme l'œil d'une mouche, il y a des milliers de facettes.
Il y a Jujube et il y a Gréco.
Et oui, oui. Jujube, c'est le titre que j'ai donné au livre. Tout le monde pense que c'était un nom de petite fille. Or, pas du tout. J'ai choisi Jujube parce que, autrefois, la jujube, le fruit, c'est un fruit assez bizarre. Il a un énorme cœur tout noir et très dur. Qu'on a du mal à casser pour voir ce qu'il y a dedans. Et puis, la pâte de jujube, c'est une pâte pectorale. Alors, je pensais que pour une chanteuse, c'était assez farce de s'appeler jujube. Voilà. Et puis, le cœur dur et noir, un peu difficile à pénétrer, me plaisait bien.
C'est un livre qui a été difficile à écrire.
Horrible.
Il y a des passages extrêmement violents.
Horrible, horrible. Remonter le film à l'envers, c'est très très dur. Et puis revivre des instants aussi cruels que ceux de l'enfance, de l'occupation, de l'adolescence, c'est insupportable. C'est insupportable.
C'est un livre qui vous a délivré ?
Non. Non. Rien peut délivrer de ça. Rien. Parce qu'il faut aussi parler des gens qui sont partis et que c'est une douleur constante, ça. Ouais. Je n'aime pas la mort. Bon, la mienne, je m'en fous. Mais celle des autres, je ne la supporte pas. Ça me fait entrer dans des colères abominables.
Vous êtes quelqu'un qui écrit ?
Oui.
Qui envoie des lettres ?
À la main, oui. Sur le papier. D'abord, j'aime le bruit de la plume sur le papier. J'aime tout ce qui entoure l'écriture. J'aime le papier, le silence, l'encre, l'odeur. J'aime ça. Je ne tape à la machine que par force.
Est-ce que ce livre vous a donné envie de continuer d'écrire ?
Ouais, j'ai écrit une ou deux nouvelles, abominables, mais terribles. J'ai eu la flemme de continuer. Il faut beaucoup de temps pour écrire. J'ai rêvé une nouvelle, totalement, puis je l'ai écrite le lendemain. Avec tous les couleurs, les noms, les vêtements, hein, tout. La race du chien, tout.
Dans Jujube, à la différence de beaucoup d'hommes qui écrivent leur mémoire, vous êtes un vrai gentleman. C'est-à-dire que vous ne vous vantez pas de vos bonnes fortunes. Par exemple, dans Jujube, quand vous parlez de Miles Davis, vous parlez de votre amitié, que vous le retrouvez aux États-Unis, que vous découvrez qu'effectivement il y a des problèmes, certains problèmes aux États-Unis, mais vous ne vous étendez pas sur le sujet.
Si, je me suis étendue longuement sur le sujet.
Oui, sur le sujet de la discrimination, oui, vous vous étendez. Ah oui, d'accord. Vous me faites rougir. Mais non, c'est par les mémoires de Miles Davis qu'est devenu public. En fait, le fait que vous avez une liaison.
Alors, je considère qu'il faut être deux pour en parler.
Et lui, alors, il a une phrase, je trouve, qui est le plus beau compliment qu'on puisse faire à une femme. Il écrit, avant, j'ai eu quelques maîtresses avant de rencontrer Juliette Gréco, mais avant de l'avoir fait l'amour avec elle, je ne savais pas ce que c'était que de faire l'amour à une femme. Alors, vous vous plaignez en ce moment qu'on vous donne des médailles et des choses comme ça, mais ça, c'est une vraie médaille, ça.
C'est vrai, c'est ça, une médaille, oui. En tout cas, c'est un magnifique compliment. C'est un grand travail, l'amour. C'est peut-être le travail le plus minutieux, le plus long, le plus difficile.
Alors, les mémoires de Miles Davis vous donnent une deuxième fois un brevet de gentleman, puisqu'il dit une chose vraiment terrible, c'est que quand il vous retrouve aux États-Unis, il vient vous visiter à votre hôtel, et il vient avec des amis noirs, et il vient pour leur montrer qu'il peut humilier une femme blanche, etc. Et il décrit la situation en mettant que vous comprenez parfaitement la situation, que vous ne dites rien. Il raconte même qu'il vous demande de l'argent, que vous lui donnez de l'argent.
Je lui en ai donné, oui.
Et pas un mot de ça dans vos mémoires.
Je suis une femme relativement bien élevée. Et puis, si lui a envie d'en parler, qu'il en parle. Mais moi, non. Oui, Miles avait besoin de secours. Miles était dans un état physique extrêmement grave. Miles était complètement soumis à la drogue. Miles était un homme très malheureux. Ce n'est pas à moi d'en parler. Tous les moyens sont bons à ce moment-là, et j'étais ce moyen-là. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je l'aime suffisamment et pour ne pas en tenir compte. Et dans la nuit, il m'a appelé, après toutes ces histoires, il était dans un état terrible. Et il pleurait au téléphone et il m'a dit... Il ne faut plus jamais que vous me voyez en Amérique, ne me voyez plus jamais. Je ne veux pas salir votre réputation, etc. Ça a été affreux, affreux.
Vous avez préféré garder d'autres souvenirs ?
Je préfère le meilleur. Je suis une femme de bonheur, je ne suis pas une femme de malheur.
Et vous avez le plaisir de le retrouver ?
Oui.
C'est une vraie
amitié.
Je
n'ai jamais parlé de rien. Jamais. Jamais. Je n'ai jamais rien dit.
Vous avez lu les mémoires de Miles Davis,
non.
Évidemment.
Non. Et non. Bien sûr que non. C'est le genre de choses que je n'aime pas lire, moi. J'avais un certain recul, donc je ne voulais pas savoir. On est venu me le dire, comme vous le faites aujourd'hui, mais je n'ai pas acheté le livre.
Mais vous l'avez vu, je sais, après ?
Oui, il est venu me voir à Paris... J'habitais rue d'Alésia à ce moment-là. Il est venu me voir. Il est venu avec 4 gardes du corps, une limousine aux vitres fumées, avec un luxe de protection bien inutile, parce que j'avais vidé la maison. De même que quand Brel est venu travailler pour son dernier disque à la maison, j'avais dit à tout le monde de partir. Il n'y avait plus de domestique, il n'y avait plus personne. Donc, il faut savoir... comment je m'appelle, quand même, et qui je suis.
Quels sont vos projets, aujourd'hui ?
Eh ben, mourir dans pas trop longtemps, parce que ça commence à bien faire, et à part ça, jusque-là, m'agiter.
Enfin, en tout cas, quand on lit votre autobiographie, on se dit que ça n'a jamais été ennuyeux.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et puis, il y a un côté féerique.
J'ai passé une vie d'ébloui. Je suis ébloui. Voilà. D'une part et d'autre part, j'ai passé ma vie à combattre. Ce que je n'aime pas.
Vous êtes sûr ?
Comment ?
Vous êtes sûr que vous n'aimez pas combattre ?
Si, j'aime combattre. Mais bien sûr que oui. J'aime combattre ce que je n'aime pas. Je combats contre ce que je n'aime pas. Donc, j'ai eu beaucoup de boulot et j'en ai beaucoup. Ce monde est un monde... qui ne me satisfait pas. J'ai connu des jours plus heureux pour ce monde. Ce monde me fait peur et l'indifférence me fait peur et le renoncement me fait peur. Donc, les femmes sont en train de renoncer, tout doucement. Les hommes ont renoncé depuis longtemps. C'est assez inquiétant. Donc j'espère que les enfants ne vont pas renoncer et vont foutre le feu. Donc il faut garder sa violence. Pas sa violence meurtrière, mais sa violence profonde vers et envers les choses. Il faut rester intègre. Voilà. C'est les recettes de Tante Juliette. Non, mais c'est vrai. La vie n'est qu'un combat.
La chanson vous a fait beaucoup voyager.
Oui.
Vous a fait découvrir le monde.
Oui. Dans tous les sens. Dans tous les sens. Et m'a fait aussi découvrir le monde dans ce qu'il a de pire. C'est-à-dire qu'on m'a demandé d'aller chanter au Chili. Et je me suis dit non. Je ne veux pas aller chanter au Chili, quand même.
C'était en pleine dictature.
Oui. Quelle horreur. Il n'y a pas au Chili. Puis j'ai réfléchi, je me suis dit que j'étais lâche et je ne supporte pas ça. Alors comme il n'y a que moi qui puisse me décider à quelque chose, que personne ne peut m'en empêcher quand j'ai pris ma décision, je suis partie. J'ai eu peur, mais j'ai eu un bonheur formidable.
Qu'est-ce que vous leur avez chanté ?
Oh, ben, le cimetière militaire, des petits trucs comme ça. Bien. Devant un parterre de généraux en uniforme, avec des dames qui se ressemblaient tous. C'est un peu comme le Front National. Les femmes sont toutes les mêmes. Elles ont le faux foulard Hermès, le faux bracelet Cartier, la fausse. Elles sont blondes. D'un blond, je ne sais pas où elles vont le chercher. C'est assez extraordinaire. Ce sont des femmes tout à fait étranges. Bon, cela dit, j'ai eu un plaisir extrême à... Mais je suis très insolente. Et puis, j'ai un vieux fond révolutionnaire qui ne me quittera jamais. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis entrée sous les hurrahs et je suis sortie dans le plus beau silence de ma carrière. Pas une beigne. Une merveille. Une merveille. J'avais gagné la haine. J'étais bien contente.
Et on vous a reconduit à
l'avion? Ah oui, avec les honneurs de l'armée. On avait les motards devant, les motards derrière, et un type de la police, pas en uniforme, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce sont des gens que je n'aime pas beaucoup fréquenter, qui était là avec la pile de passeports, parce qu'on n'avait plus de passeports. J'ai réussi à ce qu'on nous pique nos passeports. Ils sont venus ramasser les passeports et nous ont surveillés. J'entendais les pas dans le couloir, à l'hôtel. J'avais très peur, très peur. Mais c'est une peur tellement joyeuse.
Fin de cet hommage à la chanteuse Juliette Gréco, enregistré au micro d'Hélène Azéra en 2001. Voix nue, réalisation Manouchak Fachaï, Anne-Pascale Desvignes, attachée de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À Voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr. See.